Bonsoir chers auditeurs, bienvenue à notre live du mercredi soir. Nous sommes le 19 février 2025 et ce soir nous avons eu un peu de retard parce qu'on a eu des problèmes techniques. Et oui, ça arrive quand on est plusieurs avec de la technologie différente, et ben ça évolue et puis des fois on a des pannes de micro. C'est ce qu'on a eu ce soir, donc on commence le live avec un peu de retard. Donc le live c'est tous les mercredis soirs à 19h. Environ tous les mercredis soirs, hein, ça nous arrive de faire des pauses, mais environ 40 fois par année. Et puis, on a une heure avec un invité, une invitée. Puis après, on a une sorte de d'after privé pour nos donateurs et puis ceux qui achètent un petit billet pour parler avec nos invités de manière peut-être un peu plus relaxée. Donc ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir la doctoresse Frédérique Giacomoni, qui est psychiatre et psychothérapeute, qui est assez connue vu qu'elle s'est engagée beaucoup pendant la période du Covid. On va revenir là-dessus. Bonsoir Frédérique.
Bonsoir Charlie, bonsoir Pascal, bonsoir à tous les auditeurs.
Merci beaucoup, oui. J'ai oublié de présenter que Pascal est là aussi pour, oui. Pour maintenir la technique. Salut Pascal.
Salut tout le monde.
Et Amaël, malheureusement, elle est là avec nous, mais elle a eu des petits soucis de micro, donc elle ne va pas pouvoir participer ce soir. C'est ce qu'on a essayé de régler tout à l'heure. Donc, on va mettre le focus maintenant sur Frédéric Giacomoni. Dites-nous maintenant, ou dis-nous peut-être, on va se tutoyer, qui es-tu, hein, parce qu'il y a des personnes qui te connaissent, mais il y a beaucoup certainement d'auditeurs qui ne te connaissent pas encore. D'où viens-tu? Où est-ce que tu as grandi? Quelles ont été tes valeurs? Raconte-nous un peu ton parcours en bref.
Eh bien, bon, alors je suis donc Frédéric Giacomoni, je suis psychiatre, mais j'ai grandi à Nice. J'ai la chance d'avoir un père corse pied noir et une maman tout à fait vaudoise. Et ils se sont d'ailleurs rencontrés en Suisse. J'ai été conçue en Suisse et je suis née à Nice. Voilà. Donc j'ai passé toute ma vie d'enfant, d'adolescente et de jeune adulte à Nice. C'était ma patrie. Et puis j'avais ma patrie de cœur qui était la Suisse et plus spécifiquement le canton de Vaud où j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans ma famille vaudoise avec beaucoup de bonheur et des tas de souvenirs merveilleux dans les montagnes et à Lausanne aussi en particulier.
D'accord, voilà. Magnifique. Donc c'est quand même, il y a ce lien avec un peu les Alpes qui ramène à la Suisse, hein, depuis les Alpes-Maritimes.
Ah oui, à la fois il y a les Alpes-Maritimes et puis il y a les Alpes. Donc ça a été voilà. Après j'ai fait mes études à Nice et j'ai ouvert mon premier cabinet aussi dans cette ville. Puis il y a 15 ans maintenant, j'ai eu l'opportunité de changer mes deux patries. Ma patrie de cœur est devenue ma patrie tout court puisqu'on est venu s'installer ici. Et puis ma patrie tout court, la France, est devenue ma patrie de cœur. Voilà, donc je suis toujours entre les deux pays. Pour moi, ce sont vraiment mes deux patries qui me tiennent fort au cœur, les deux.
D'accord, magnifique. Et on va aussi peut-être revenir à qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagé aussi peut-être un peu plus publiquement ces dernières années, parce que quand on préparait l'émission, tu me disais que tu étais plutôt quelqu'un justement de discrète, qui cherchait pas forcément à te mettre en avant. Et là, qu'est-ce qui a été le moteur un peu pour toi de faire cet engagement un peu pour la société?
Oui, c'est vrai que j'ai fait une grande bascule parce que oui, jamais j'aurais pensé faire ça dans ma vie étant donné que je suis plutôt quelqu'un de discret qui n'était pas du tout, j'avais pas du tout envie ni de montrer ma tête, ni de faire ce genre d'émission ce soir, ni de prendre la parole en public et encore moins dans des manifestations. Je n'avais jamais manifesté avant 2020. Et ce qui s'est passé en 2020 m'a énormément choquée. Je pense que je suis pas la seule. Au départ, j'avoue qu'au tout début, je me suis dit bon, bah cette fois-ci, c'est peut-être vrai qu'il y a une pandémie, vu qu'en médecine, on avait été, j'allais dire, biberonné à l'idée qu'un jour il y aurait un big one, une big pandémie. Et puis, je me suis dit, cette fois-ci, si la Suisse s'y met aussi, qui était dans mon idée encore à l'époque un pays sérieux, qui traitait bien ses concitoyens, je me suis dit, cette fois-ci, il doit y avoir quelque chose. Donc, au départ, j'ai respecté. Et puis, très vite, je me suis dit, il y a quand même des choses complètement incohérentes.
Et heureusement... C'est quoi qui t'a particulièrement choqué, par exemple, ou interpellé?
La première incohérence que j'ai repérée, c'était déjà bizarre d'enfermer les gens et bizarre d'empêcher les médecins de premier recours de faire leur travail. Alors, je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a des informations que je n'ai pas. Hein. Les autorités ont des informations que je n'ai pas. Je vais à ce stade-là, je ne vais pas juger. Mais c'était très bizarre d'empêcher les médecins de faire leur travail, puisqu'en principe, devant une maladie, n'importe laquelle, ben, le médecin reçoit son patient, il repère des symptômes bizarres, par exemple, ou inédits, puis ça fait, bon, il note, puis il voit un deuxième patient qui a le même genre de trouble, troisième, et puis là, il commence à se dire, bon, ben, cette maladie-là se présente comme ça, et puis il teste des médicaments, il essaye de soigner. Là, c'était impossible. Donc ça, c'était très curieux. J'ai été choquée de ça. Et puis, on nous avait annoncé, je dis de mémoire, hein, peut-être que ma mémoire me trompe, mais il me semblait qu'on nous annonçait 500 000 morts en Suisse, selon les prévisions. Et puis, je me suis dit, bon, bah, 500 000 morts, des personnes fragiles, statistiquement, autour de moi, il devrait y avoir des décès, puisqu'il y avait des gens fragiles autour de moi, je parle de voisins, etc. Puis là, j'ai vu que tout le monde se portait très bien et finalement était content de ses vacances, d'arrêter le rythme habituel et de se reposer. Donc, c'était pas cohérent avec les morts annoncées, c'était pas cohérent avec ce qui se passait autour de moi. Il y avait une différence entre ce qu'on nous racontait dans les médias et la réalité que je voyais autour de moi. Et là, très vite, j'ai découvert l'article de Jean-Dominique Michel, Covid-19, fin de partie. Et je me suis mise à. Ben d'abord, j'ai compris effectivement ce qui se passait, que c'était pas tout à fait, qu'il y avait une différence considérable entre la réalité qu'on pouvait observer et la réalité qu'on nous racontait. C'était deux choses différentes. Et j'ai commencé à lire. C'est-à-dire que j'ai toujours lu, bien sûr. Mais je lisais de la psychologie, je lisais de la spiritualité, je lisais pas de la science dure. Je lisais pas d'études, de choses comme ça. Donc j'ai lu Jean-Dominique Michel, j'ai lu les auteurs dont il parlait, des articles en anglais qui me fascinent pas, je vous l'avoue. J'ai lu Christian Vélot, qui est un scientifique aussi, un chercheur au CNRS, qui expliquait des choses. J'ai lu un peu tout ce que j'ai trouvé à ce moment-là pour ouvrir un peu mon esprit, ma conscience. Et là, j'ai commencé à voir beaucoup de choses très incohérentes aussi dans le discours. Je comprenais rien, hein, le patient R0, waouh! J'avais jamais entendu parler de ça. Alors, ok, j'ai fait de la psychiatrie, je fais de la psychiatrie depuis 35 ans, oui. Je peux avoir oublié certaines choses, mais quand même, il y avait tout un vocabulaire un petit peu nouveau. Puis alors, le patient asymptomatique, ça, j'ai trouvé ça fantastique. Ça m'a très vite rappelé plutôt George Orwell avec La paix, c'est la guerre.
Le malade asymptomatique, ouais, c'est
Ah, ça, c'était fantastique. Enfin, c'est pas dans une maladie infectieuse de cette nature-là, hein, virale, respiratoire, c'est pas possible. Soit on a des symptômes et on est malade, soit on n'a pas de symptômes et on n'est pas malade. Hein, mais j'étais à la fois dans Dr. Knock, hein, enfin, c'était incohérent, voilà.
Ouais. Et est-ce que tu as pu faire un lien justement entre parce que là tu le vivais comme citoyenne quelque part, mais est-ce que tu as pu faire un lien avec ce que tu avais appris justement en psychologie, en psychothérapie? Est-ce que tu voyais là des comportements pathologiques?
Ah oui, bien sûr. Donc ça c'était la toute première phase, j'allais dire, que je viens de décrire, grosso modo, à la fin du mois de mars, début du mois d'avril, etc. Puis ensuite, bien entendu, que bah, j'ai fait le lien avec mon métier et avec tous les abus de pouvoir, abus d'utilisation. Enfin, ils nous ont fait peur et la peur a figé les esprits. Ça a mis tout le monde dans un état de sidération totale. Et la peur, c'est très pratique quand on veut manipuler les gens, bien sûr. Donc là, j'ai commencé à faire le lien. Puis il y a Ariane Biran qui a commencé à s'exprimer aussi, Louis Fouché. Enfin bref, tout ça est devenu pour moi un tableau cohérent avec tous ces gens-là qui parlaient de choses que je connaissais et que j'avais moi-même vécu, expérimenté et travaillé, et que je travaille avec mes patients aussi, bien sûr. Donc c'est la thématique des abus qui m'a, j'allais dire, qui m'a fait sortir de ma réserve.
Je voulais te demander, justement, il y avait cet état de sidération, mais est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est inné? Ça veut dire qu'une personne, elle va sombrer, elle va être soumise à ces mécanismes et puis elle va pas pouvoir contrer cet effet de sidération? Ou est-ce que tu connais des outils que les gens peuvent utiliser pour détecter que c'est un état qui risque de les amener à un état de sidération et puis essayer d'éviter, d'esquiver la sidération, si on veut? Est-ce qu'il y a des outils comme ça qui existent en psychologie ou en psychiatrie?
Je t'avoue que ta question est difficile parce que, comme ça, a priori, j'ai pas une réponse toute faite. Étant donné que je vois des patients, c'est chaque fois un cas individuel et je peux pas te dire s'il y a des outils pour sortir de la sidération. Bon, le temps aide, bien sûr. Être préparé à l'idée que ça puisse arriver, ça aide encore plus. C'est-à-dire que quand on sait, quand on connaît les mécanismes, on les repère et on sort beaucoup plus vite de la sidération. Je vois dans tous mes patients qui sont pas tombés dans le piège, eh bien, ils ont repéré les incohérences tout de suite. Enfin, plus tôt on a repéré les incohérences, plus vite on est sorti de cette sidération. Il faut dire aussi que la peur, elle a été entretenue matin, midi et soir, à longueur de, enfin, elle l'est encore, mais sur d'autres sujets. Mais voilà, ça a été vraiment martelé, hein. Ouais. C'était très, très impressionnant. Et comme
je me souviens, il y avait un jeu à faire, c'était d'aller sur Google et de faire une recherche à peu près n'importe quel nombre, même des nombres qui ont des quatre chiffres, hein, des milliers, cases of COVID. Et il y avait quelque part dans un pays, à un moment donné de la pandémie, un journal, un média qui avait publié un article sur ce nombre exact de cas COVID. Tellement il y avait une avalanche d'articles qui martelaient ça justement tout le temps.
C'est très, très impressionnant. Et ça, par exemple, c'est une technique de manipulation, l'usure. À force de répéter, on finit par lâcher prise. Hein, c'est une des techniques. Donc, c'est vrai que de connaître les techniques, ça sert à les repérer et à pas tomber dans le piège, bien sûr. Je pense aussi que d'être ancré. Beaucoup de gens ne sont pas ancrés. Alors, être ancré, ça veut dire quand même avoir les pieds sur terre. Beaucoup de gens aimeraient partir dans les étoiles, monter dans la cinquième dimension, je ne sais quoi, vivre la nouvelle Terre. Enfin, on entend beaucoup ce genre de choses. Oui, formidable, très bien, pourquoi pas. Enfin, déjà, gardons les pieds sur terre, soyons ancrés. Sinon, on ne va nulle part. Enfin, on va nulle part. On se perche quelque part, mais on n'est plus là. Or, nous sommes incarnés sur Terre. Bon, ben, il faut y être. Ça aussi, c'est contre-intuitif. Hein. Quand on n'est pas bien quelque part, on a envie de partir. Donc, on se dit « Ah, je mets la tête dans les étoiles, c'est super, là-bas, c'est mieux. » Oui, sauf que on est sur Terre et que si on part la tête dans les étoiles, on part avec à peu près toutes nos ressources et on se coince dans une espèce de bande passante, certes plus agréable, mais qui nous aide pas à vivre ici et maintenant. Et si on veut monter la tête dans les étoiles, faut descendre bien dans ses pieds et dans sa terre, faut s'ancrer. Voilà, faut être là. Il faut respirer, être là, et au contraire embrasser la réalité. Il ne s'agit pas de fuir. Bon, ce que je dis est peut-être assez inaudible d'ailleurs, hein. C'est peut-être un peu compliqué d'entendre ça, mais je n'ai pas trouvé autre chose. Il faut être là, il faut accepter d'être pleinement là avec toutes les ressources qu'on a, et on en a plus que ce qu'on croit.
D'accord. Ouais, est-ce que c'est peut-être symptomatique d'une époque où justement les gens sont devenus peut-être de plus en plus occupés, de plus en plus passifs par rapport à la marche du monde, et du coup on prend beaucoup moins de temps pour s'informer des dessous des choses, d'échanger malgré le fait qu'il y ait les médias sociaux. Là. Comment ça se fait en fait ? Est-ce que si ça s'était passé dans les années 50, est-ce que ça aurait été la même chose d'après toi ?
Non, je pense pas, en effet. Je pense pas. D'abord, j'en suis sûre. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé la même chose déjà en 2003 avec le SARS-CoV-1. Je sais pas si vous vous en souvenez. Moi, je m'en souviens très, très bien parce que mes beaux-parents avaient peur et moi, j'avais pas peur. Et donc, je leur disais, mais vous inquiétez pas, c'est politique, c'est commercial, ils veulent vendre un truc, mais y a rien de tout ça. Et ils avaient peur, donc il a fallu que je trouve des mots pour les rassurer. J'ai pas tellement trouvé d'ailleurs, mais finalement ils ont vu que j'avais raison, il se passait pas grand chose. Mais à l'époque, les choses étaient différentes, dans le sens où ils n'avaient pas martelé, les médias, n'avaient pas martelé matin, midi et soir, et il y avait encore des débats contradictoires. C'est-à-dire qu'on invitait encore quelqu'un qui pensait A et quelqu'un qui pensait B, et on les laissait discuter. Et ça a été, par exemple, pour une de mes amies, ça a été une incohérence qu'elle a repérée, qui l'a fait bondir. Elle dit, il n'y a pas de débat contradictoire, c'est pas normal. Mmh. Voilà, dans les incohérences ou dans les indices, hein, c'est pas normal. Même deux êtres humains, même quand on est d'accord, absolument d'accord, ben, il y a toujours des petites divergences. Et c'est ça qui fait que, par exemple, quand on fait un dialogue, la pensée évolue. Hein, la pensée de l'un fait évoluer la pensée de l'autre, même si on est d'accord sur le principe ou la direction à suivre. Et là, tout le monde avait exactement le même discours, pratiquement mot pour mot, et dans tous les pays. dans tous les pays en même temps. C'était assez fantastique. Donc sidérant pour les gens qui se laissaient prendre et très bizarre pour les gens qui avaient un peu de recul parce que ça n'est pas possible.
D'ailleurs, on le voit maintenant, hein, vu que les États-Unis ont basculé, et que maintenant sont au pouvoir des gens qui avaient quand même un certain nombre de critiques à émettre par rapport aux institutions, au gouvernement. On voit que les dirigeants européens sont plus du tout habitués à vivre dans la critique et ils sont quasiment choqués de ce qu'ils entendent, ce qu'ils ont entendu du vice-président Vance quand il est venu à Munich à la réunion de sécurité. Et puis aussi des propos de Trump par rapport à l'Ukraine. Enfin, ça, on voit qu'ils sont plus du tout habitués à avoir ce débat contradictoire. Hein. C'est ce
C'est
que tu
vrai.
observes aussi. Ouais.
Oui, tout à fait. C'est à tel point que les gens ont peur, par exemple, que Trump ait nommé Robert Kennedy Jr. parce qu'il est anti-vax, alors qu'il n'a jamais dit qu'il était contre les vaccins, par exemple. Il ne le dit pas. Après, on va voir ce qu'il va faire, hein. Avec les politiques, il faut quand même s'en tenir aux actes et moins aux paroles. Mais il a jamais dit qu'il était contre les vaccins. D'ailleurs, il vient de déclarer qu'il était pour donner les informations aux gens. Et qu'ensuite ils puissent décider en toute connaissance de cause. Et ça, moi j'apprécie parce que c'est comme ça qu'on traite quelqu'un en adulte, responsable. Je veux dire, chacun doit avoir accès à l'information, doit s'informer et ensuite se faire son opinion pour soi-même. Et on n'a pas à dicter sa conduite aux autres.
Et que penses-tu, par exemple, pour les vaccins Covid, en principe, comme c'était des mises sur le marché temporaires, ils auraient dû demander, faire signer une feuille à chaque personne qui a été vaccinée avec ces produits-là. Comment ça se fait, d'après toi, que ça n'a pas été fait?
Ça, c'est de nouveau une question très intéressante. Alors, pourquoi ça n'a pas été fait? Je pense que c'est une question politique. Là, j'ai pas la réponse. En tout cas, ce que je vois de mon point de vue de psy, c'est qu'il y a eu une extorsion de consentement. C'est-à-dire que la pression pour aller se faire vacciner était extrêmement forte, enfin plus que forte, hein, et on a considéré que le fait de tendre son bras était un consentement. Mais c'est absolument pas ça, un consentement libre et éclairé. Un consentement libre, c'est je te donne les éléments pour, les éléments contre, et puis je te donne le temps de réfléchir, et ensuite tu me donnes ton consentement, qui est donc libre et éclairé, parce que je t'ai tout dit, je t'ai dit tout ce que je savais. Or là, ça a été absolument pas le cas, et c'est de nouveau une dérive très... ça fait partie des abus de la manipulation que j'observe, hein, qui ne dit mot consent. Ah, t'as pas dit que t'étais pas d'accord, donc t'es d'accord. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Ça veut dire qu'une personne qui réfléchit, qui se pose des questions, immédiatement dit, ah non, t'es d'accord. En fait, t'es d'accord. Voilà. Moi, je sais. T'es d'accord. C'est catastrophique, hein. C'est très grave.
Ouais. Et aussi, peut-être que quelque chose que j'ai observé, c'est qu'il y a une peine énorme à se remettre en question ou à admettre d'avoir fait faux, des erreurs. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Que ce soit peut-être des dirigeants, des politiciens, peut-être les gens dont les administrations sont moins médiatisées, donc on sait moins ce qu'ils pensent. Mais est-ce que c'est culturel? Parce que dans certains pays, on a vu des journalistes aussi faire leur mea culpa après coup, mais en Suisse, on dirait que c'est très figé.
Oui, ça c'est surprenant. Alors c'est pas en Suisse, je dirais, c'est dans les pays francophones que c'est très figé. Ailleurs, ça l'est moins, c'est vrai. Est-ce que c'est culturel? Je sais pas. Je pense pas. Je pense que la pression est très forte sur la France et ses satellites, hein. Nous sommes un satellite de la France. Il y a des raisons certainement qui nous échappent, qui sont politiques et peut-être autres. Ce qui est certain, c'est que faire son mea culpa, ça veut dire, je parle des gens, même de certains de mes collègues, hein, qui se sont fait prendre dans ce récit terrifiant, c'est reconnaître qu'on a été abusé. Et reconnaître qu'on a été abusé, eh ben ça, c'est très, 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 très difficile. Difficile, ça ramène à la honte. Il y a une honte. La honte, c'est une émotion qui est très proche de la... Au niveau de la quantité d'énergie, c'est proche de la mort. C'est-à-dire, il y a la mort, il n'y a plus d'énergie puisqu'on est mort, ensuite il y a la honte et ensuite il y a la culpabilité. Donc, reconnaître que j'ai été abusée, c'est être dans la honte et la culpabilité parce que la victime, bizarrement, se sent toujours coupable, c'est comme ça.
Oui.
Et ben, la personne, elle est au tapis. Donc c'est très difficile. Ça demande un accompagnement. Franchement, c'est difficile de sortir de ça, hein.
D'accord.
Bon, on n'est pas tous équipés pareil, bien sûr, hein, mais
Et ça, c'est quelque chose que tu as bien exploré, hein. Tu as écrit un livre d'ailleurs,
oui.
qui touche à ces sujets-là aussi de l'abus, hein. Peut-être c'est
Oui.
aussi quelque chose qui t'a sensibilisé dès le départ dans ta vie, peut-être de te lever contre toute forme d'abus. Peut-être tu peux nous parler de ce livre, en fait, cette petite parenthèse maintenant. Quelle avait été ta démarche aussi? Puis tu l'avais écrit sous un autre nom, sous un nom d'emprunt. Pourquoi aussi? Explique-le. Et puis peut-être on peut aller un peu plus dans le contenu si tu veux.
Oui, alors effectivement, j'ai commencé à écrire, bon, il y a plusieurs années, et puis ce qui s'est passé en 2020 est venu tellement résonner avec la thématique des abus qui m'occupe dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée depuis longtemps, que en 2020, j'ai repris en fait les débuts de manuscrits ou que j'avais fait, et puis je suis allée jusqu'au bout de ma démarche. Là, je me suis mise à écrire vraiment. Et
Et
puis
comment ça se
pourquoi?
passe? Est-ce que tu as dû t'isoler? Est-ce que tu as dû t'isoler justement du monde pour te concentrer là-dessus? Comment ça s'est passé?
Alors non, j'avoue que je sais même pas comment j'ai fait parce qu'évidemment ça m'a pris des heures et des heures de travail. Enfin c'est pas, je sais pas, il y a peut-être des écrivains qui, enfin il y a toutes sortes d'écrivains. Il y en a peut-être qui écrivent plus facilement que moi, mais pour moi ça a été un travail très long, très. Je sais pas. Tout d'un coup, j'avais besoin d'écrire et j'écrivais. Or, je pouvais écrire n'importe quand, des fois très tôt le matin, des fois dans la nuit, des fois le soir. Voilà. J'ai pas eu, si tu veux, j'ai pas eu un rythme. Je me suis pas dit, ben tous les samedis matins, j'écris ou j'ai pas pris de rendez-vous avec moi-même. Mais c'est venu. Parfois, ça coulait à flot. Parfois, c'était plus lent. Parfois, il se passait rien pendant des mois. Enfin, voilà. Donc,
D'accord.
j'ai commencé à écrire en 2020. Bon, j'ai fini. Le manuscrit en 2022 et il a été publié qu'en 2023. Donc ensuite ça a été des relectures, etc. Enfin voilà, c'est mon premier livre, donc je savais pas faire. J'ai découvert tout un monde, quoi.
Ouais. On
Voilà.
va donner le titre, hein, ça s'appelle L'amour discontinu.
Oui.
Tu l'as écrit sous le pseudonyme d'Elisabeth Lucquel. Alors pourquoi ce nom?
Alors pourquoi ce nom? D'abord parce que j'ai pas envie qu'on s'attache à l'auteur. J'ai envie qu'on s'attache à ce qui est écrit. Donc, c'était pour moi une manière de prendre de la distance avec le roman. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens lisent le roman, enfin s'ils ont envie, bien entendu, et que on puisse discuter de ce qui est écrit et non pas de l'écrivain. Voilà. Et puis,
D'accord.
c'était une manière pour moi de rendre hommage aussi à ma lignée maternelle, parce qu'Elisabeth Lucquel, c'est une vraie personne qui a vraiment existé. C'est une de mes arrière-grand-mères.
D'accord.
Et c'était un moyen pour moi de rendre un hommage à cette lignée de femmes dans ce qu'elles ont pu subir d'abus, justement, puisque c'est un des sujets du roman.
Voilà, tu pourrais peut-être justement aborder peut-être quelques éléments, quelques axes de ce sujet ou du roman.
Oui, alors bon, il y a un peu un suspense,
Dévoiler, hein.
donc je veux pas le dévoiler complètement, mais c'est vrai qu'on suit, on rentre dans le roman assez tranquillement. J'ai d'ailleurs des personnes qui arrivent pas à rentrer, tellement ça a l'air assez banal, parce que c'est la vie d'une jeune fille qui est étudiante en médecine, et puis on voit que finalement, voilà, elle fait sa vie, elle a des rencontres, elle s'amuse, et puis finalement elle se marie, elle a des enfants, enfin bon, aucun intérêt. Voilà. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'il y a quand même des choses dans sa vie qui vont pas si bien que ça. C'est assez subtil, mais c'est récurrent, ça revient. Et puis cette jeune fille qui est étudiante en médecine, qui est devenue psychiatre, eh bien, elle va se poser de plus en plus de questions jusqu'au moment où elle a plus le choix. Il va falloir qu'elle fasse la culbute et qu'elle aille voir dans les tréfonds d'elle-même ce qu'il y a qui va pas. Et pour moi, c'était vraiment essayer de faire vivre au lecteur ce que c'est que de se poser des questions sur soi. C'était aussi pour lui donner, enfin, mon espoir, hein, c'est de donner envie aux lecteurs eux-mêmes d'aller chercher à l'intérieur d'eux, éventuellement d'aller voir un thérapeute. Je donne aussi tout un tas d'idées. Dans le roman, il n'y a pas que les psychiatres ou les psychologues, il y a toutes sortes de gens qui peuvent aider pour aller voir à l'intérieur de soi. Et montrer qu'au fond, une vie qui va bien, ça peut être aussi une vie souffrante. qui va bien au sens de la société. Hein, voilà, médecin installé, un mari, des enfants, des amis, tout va bien. Enfin, voilà. Eh ben, c'est pas si simple.
D'accord, c'est pas si simple. Et comment ton entourage a réagi par rapport à ça? Parce que tu l'as fait de manière ouverte. Comment ça s'est passé
Oui, je fais toujours ça. C'est-à-dire, je fais participer mes proches et ça, c'est. Oui, bien sûr. Donc, c'est tout à fait ouvert. Ils étaient au courant. Ça a été mes premiers lecteurs, mes premiers relecteurs. Et je les remercie d'ailleurs. J'ai eu quelques amis aussi qui ont accepté ce travail fastidieux de la première lecture.
Et est-ce que ça a changé un peu tes relations aussi avec ton entourage, avec tes proches?
Oui, mais dans le sens, moi je craignais une distance et c'est le contraire qui s'est passé.
D'accord, une solidarité. Ouais.
Exactement. Et puis, oui, je pense que ben, justement, pouvoir parler de choses qui sont éventuellement graves ou difficiles ou douloureuses, c'est se montrer tel que l'on est. Et au fond, bah, ça permet à l'autre de se montrer lui aussi tel qu'il est. Donc, bah, ça renforce les liens. Et ça permet de sortir de la honte et de la culpabilité.
Mmh. Donc, appel aussi à Alain Berset, hein, s'il veut écrire un livre pour sortir de la honte et de la culpabilité.
Encore faut-il en éprouver.
C'est vrai.
Voilà, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Attention.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a quand même des gens qui peuvent arriver à des postes assez haut placés qui sont dénués d'empathie, c'est ça?
Eh bien, oui. Oui, alors, est-ce qu'ils sont là parce qu'ils sont dénués d'empathie ou qu'ils en ont très peu ou est-ce qu'ils le deviennent? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas, il faut pas en avoir beaucoup pour occuper des postes comme ça, oui. Oui. Il ne faut pas se poser trop de questions. Si on se pose trop de questions, je pense qu'on est assez vite au tapis. Hein. Voilà, ils partent en burn-out. Enfin, c'est quand même très dur. Donc oui, je pense que oui, certains les nomment, certains disent, hein, et notamment notre ami Jean-Dominique Michel dit que ce sont des psychopathes. Je pense que ça mérite d'être en tout cas. Je ne sais pas s'ils le sont tous, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression qu'on a une brochette. Hein.
Qu'on a une brochette. Et on t'en parlait quand on préparait l'émission aussi, parce que bah, tu viens un peu du milieu du médical, et tu parlais justement bah, du niveau de corruption carrément qui s'est installé dans les revues médicales, de l'influence de l'industrie pharmaceutique, dans le déroulement des choses, dans l'évolution de la médecine. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler?
Oui, alors là aussi, il y a eu un glissement, enfin... De mon point de vue, de ce que j'ai observé, hein, je ne parle que de ce que j'ai observé par rapport à ça, j'ai vu un glissement progressif. Quand j'ai commencé à l'hôpital, donc c'était au tout début des années 90, hein, c'était en 90, les laboratoires étaient présents déjà dans les hôpitaux, mais ils restaient à leur place, de mon point de vue. C'est-à-dire que ils pouvaient effectivement louer une salle pour qu'on puisse organiser une conférence, un enseignement post-universitaire, voilà. Ils mettaient leur panneau tel médicament, voilà, laboratoire machin qui fait tel médicament. Et puis on était libre de discuter de ce qu'on voulait. Et parfois on discutait de psychothérapie. On discutait absolument pas de médicaments. On discutait de santé publique. On discutait absolument pas de médicaments. Alors oui, on disait merci au laboratoire machin, mais c'est tout. Mmh. Et puis petit à petit, ça c'est devenu interdit. Bon, pourquoi? On faisait pas de mal. Ah, parce que ça influence notre prescription, oui. Mais c'est devenu pire, c'est-à-dire que les laboratoires nous apportaient l'information scientifique. Et c'était un peu comme dans les années, je ne sais plus exactement, les années, c'était quoi, 30, 40, 40, où on s'est mis à faire fumer les femmes. Non, c'était 30, oui. Et on a dit, on a payé des médecins pour prouver que, en effet, une femme qui fume, même si elle est enceinte, au contraire, ça fait du bien au fœtus. C'est formidable, une femme qui fume, et surtout si elle est enceinte, c'est formidable. Bon, et on a payé des médecins pour ça. Et c'est devenu généralisé, c'est-à-dire que maintenant, c'est à peu près la seule communication, enfin, en tout cas, une grosse partie de la communication médicale est frelatée. Elle est payée par les laboratoires, qui payent les médecins, chers en général, très bien, voilà, et qui, évidemment, vont faire plaisir aux laboratoires pour avoir une prochaine étude. Donc, on n'est plus du tout dans la science, on est dans autre chose, on est dans la dans de la communication. On est dans du marketing. Voilà. Alors, c'est pas toutes les études, mais quand on a le directeur du British Medical Journal qui dit, bah oui, la plupart des études qui sortent sont frelatées, il est temps de se poser des questions quand même.
Est-ce que c'est un mélange qui vient plutôt du monde anglo-saxon, où il y a plus ce mélange entre la recherche, la politique, l'économie, et puis on doit avoir vraiment des enjeux aussi économiques dans tout ce qu'on fait? Parce qu'on peut penser aux États-Unis, ben la plupart des grandes universités sont financées en majorité par des fonds privés.
Ouais, c'est le problème. C'est le problème de la collusion entre intérêts privés et publics. Au bout d'un moment, ben, celui qui paye dirige. Donc, une université financée par des fonds privés, donc soit les fonds privés disent « Ok, moi je veux pas savoir comment vous les utilisez », dans ce cas-là, je sais pas, c'est du don, etc. Mais enfin, qui fait ça? Faut pas être naïf, celui qui paye dirige. Si c'est l'État, ben c'est l'État qui dirige, et l'État, en principe, est censé préserver le bien commun. Mais même ça, même les États sont financés par des intérêts privés aujourd'hui. Donc, on est dans du délire total. Et le scandale de l'USAID, enfin là je sors de ma branche, mais c'est l'actualité récente, mais montre que l'USAID finance absolument tout. Mais ça va pas. Ils financent ce qui nous influence dans les médias, mais aussi dans la médecine, pour ne parler que de ça. Mais ça ne va pas.
Ouais, c'est vrai que c'était un peu l'actualité brûlante hein, de découvrir que l'USAID, en fait, c'était pas seulement aider des Africains à manger mieux, plus ou vivre mieux, c'était aussi des projets qui touchaient à des domaines qu'on n'aurait jamais imaginé, et puis aussi donner de l'argent à des médias qui sont pas du tout en faillite. Pour quelles raisons, hein, on peut se demander. Et puis peut-être on va aussi rebondir sur l'OMS, parce que c'est un dossier que tu connais très bien. Peut-être tu peux nous briefer un peu sur l'actu, où on en est avec cette OMS, ses réformes.
Alors, je prétends pas quand même connaître toute l'actu de l'OMS, mais justement, j'allais faire le lien avec l'USAID. On s'est rendu compte que l'USAID finançait en grande partie l'OMS, mais aussi Bill Gates, mais aussi Gavi. Gavi, Bill Gates, c'est eux qui financent l'OMS. Donc, on a l'impression d'un cercle comme ça qui s'autofinance. Et puis, Gavi, c'est un État dans l'État en Suisse, puisque même la police cantonale ne peut pas rentrer. Hein, c'est un bâtiment privé. Donc, c'est comme s'il y avait un État dans l'État à Genève. Ça, c'est bizarre aussi.
Et peut-être puis, qu'est-ce que c'est le Gavi, les auditeurs qui ne connaissent pas.
Oui, c'est l'Alliance internationale pour les vaccins. Et c'est tenu principalement par Bill Gates. Donc Bill Gates est partout, on le retrouve un petit peu derrière tout ça.
Et le directeur de l'OMS actuel est un ancien du Gavi d'ailleurs, et un proche de Bill Gates.
Ouais. Exactement. Alors on se dit, c'est quand même un peu surprenant. Ça, on voit ça dans beaucoup de domaines, mais dans l'OMS, c'est assez surprenant. C'est pas un médecin, ça aussi c'est surprenant, bon. Pourquoi pas? Enfin, c'est pas un médecin. Et c'est un ancien de Gavi. Alors, moi, ça pose des problèmes de liens d'intérêt. Nous, par exemple, en médecine, on nous demande de déclarer nos liens d'intérêt. C'est-à-dire que si je donne une conférence à des médecins, je vais devoir déclarer si j'ai des liens d'intérêt avec tel ou tel laboratoire. Formidable. Mais Bill Gates, qui est dans Gavi, qui finance l'OMS, l'ancien de Gavi qui travaille, qui est président de l'OMS, directeur de l'OMS, USAID qui finance à la fois l'OMS et Gavi et Bill Gates, mais ils déclarent pas leur lien d'intérêt, eux. Ça semble assez évident qu'il y a un lien d'intérêt. Donc ça, c'est très choquant. C'est très, très choquant. Et c'est sûr que Trump qui dit « je vais me retirer de l'OMS » et Robert Kennedy qui dit « on va faire le ménage, on va quand même s'occuper de tout ça, on va essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas », et Musk qui, avec son dicaster là, de s'occuper de l'efficience gouvernementale, qui trouve des sous qui devraient pas être à certains endroits, etc., ça fait une sorte de ménage qui, pour moi, pour l'instant, va dans le bon sens. Au moins, ça permet de reposer la question de « enfin, qu'est-ce que c'est que cette OMS ?»
Exactement.
L'OMS a été conçue pour s'occuper de la santé mondiale, pour que tous les peuples puissent avoir accès à des médicaments et à des soins de qualité. Donc ça c'est le bien commun. On se dit c'est formidable. Sauf que d'emblée c'était pas ça. Quand on lit leur charte, J'avais trouvé ça pour le discours que j'avais fait à Berne l'année dernière sur l'OMS, justement. Et ils disent d'emblée qu'ils ont tout pouvoir et pouvoir au-dessus des États, quoi. Ils font ce qu'ils veulent, voilà. Et ça va pas. Ça va pas.
Et je voulais aussi revenir sur Bill Gates, sa fondation. En fait, j'ai appris récemment que quand il finance des projets, il cherche un retour sur investissement à 12 mois. C'est-à-dire, c'est du philanthropo-capitalisme.
Ah oui, c'est ça, c'est le
Ouais.
philanthrocapitalisme, oui. Mais
Voilà.
ça m'amuse aussi de penser que Bill Gates est un philanthrope. Ça, c'est ce qu'on raconte. Et puis, ben, la réalité, c'est que quand il investissant, ben, je sais pas combien il a en retour, mais c'est toujours des investissements, c'est jamais un don. Hein, ça, il y a des bouquins écrits sur le sujet, là. Bon, c'est pas du tout mon domaine, mais faut pas être naïf.
Tout à fait. Et donc contre l'OMS, justement, tu as beaucoup milité avec le mouvement fédératif roman, hein, dont tu es la vice-présidente. Peut-être explique-nous comment tu t'es engagée dans ce mouvement-là. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là pour ceux qui ne le connaissent pas? Et puis quelles sont vos actions et puis vos actualités? Je sais que vous organisez beaucoup de conférences aussi. Peut-être tu peux en toucher un mot.
Oui, c'est juste, oui. Alors, c'est un mouvement tout à fait apolitique, en dehors des partis, et c'est un mouvement citoyen. Donc, ça s'appelle Mouvement Fédératif Roman. C'était pour essayer de regrouper tous les petits mouvements qui se sont montés suite à cette pandémie de 2020. Il y a quand même des tas de gens qui se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas et qui ont essayé de faire quelque chose. Il y en a même beaucoup, beaucoup, particulièrement en Suisse romande. C'est Michèle Caillé, qui a été une des initiatrices et cofondatrices de ce mouvement. Et ils m'ont proposé de les rejoindre, ce que j'ai accepté volontiers parce que j'estime que l'être humain, dont je suis, est un être à la fois spirituel et politique. Donc pour moi, c'était une manière de m'engager dans la politique, mais pas la politique politicienne qui ne m'intéresse absolument pas, mais dans la politique au sens d'organisation de la cité, c'est-à-dire essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Et dans les actions principales, c'est que nous menons, on écrit des courriers un peu poil à gratter comme ça pour dénoncer certaines incohérences ou voilà. Et puis on essaye pas, on organise des conférences régulièrement pour essayer d'apporter justement le débat contradictoire, c'est-à-dire qu'on fait venir des gens qu'on ne voit jamais ou qu'on n'entend jamais ou trop rarement dans les médias et qui sont experts dans leur domaine, qui savent tout à fait de quoi ils parlent, mais qui nous parlent d'autre chose que ce que les médias nous mettent en avant sans arrêt.
Et durant ces conférences, quels sont les retours des gens? Est-ce qu'ils sont enthousiastes? Est-ce qu'ils apprennent des choses?
Alors, oui, les retours sont toujours enthousiastes, c'est ce qui nous permet de continuer parce que ça demande beaucoup de travail et qu'on est une toute petite équipe entièrement bénévole. Mais les retours sont très très positifs, les gens apprennent des choses, on a un public fidèle et on est content, c'est franchement bien.
Quels vont être les prochains thèmes chauds de cette année?
Alors, les tout prochains thèmes. Le prochain, c'est le 11 mars. Ça sera un débat entre notre présidente, donc Michèle Caillé, et Jean-Frédéric Poisson, qui est un homme politique français, un ancien député, qui lui aussi a monté un mouvement citoyen dont il est le président et qui mêle un peu lui aussi politique et spiritualité. Enfin, il est voilà. Et ils vont parler tous les deux de la perte de la souveraineté en France et en Suisse. Donc ça, c'est un thème qui nous tient à cœur, la perte de la souveraineté, la perte de la neutralité, j'allais dire la perte du bon sens suisse, quoi, hein? Voilà, la perte des valeurs fondamentales de la Suisse. Ça, c'est un de nos grands thèmes. Donc c'est la prochaine conférence, le 11 mars. Et puis le 25 mars, on a beaucoup de chance d'accueillir Frédérique Lemarchand, qui est une artiste peintre, sculptrice et écrivain aussi. Elle a une très très belle plume, elle écrit des choses magnifiques, qui va venir nous parler de l'épreuve comme dimension initiatique du chemin. Et elle parle beaucoup de son vécu personnel, puisque elle a dû subir une greffe cœur-poumon à l'âge de 34 ans, et suite à une maladie qu'elle a depuis sa naissance. Et ben, les épreuves, elle les traverse encore et toujours, et elle a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. C'est
D'accord.
quelqu'un d'extrêmement touchant et qui fait du bien à écouter et à entendre. Je vous recommande.
Et donc ça, toutes ces infos, on les retrouve sur mouvement-fédératif-roman.ch, c'est ça, hein, c'est juste, c'est votre site.
C'est tout à fait juste.
Ça nous permet de rebondir parce que Amaëlle a perdu un peu son micro, mais elle n'a pas perdu son clavier, puis elle nous écrit des questions. Peut-être tu peux nous en parler plus sur ton approche spirituelle. Peut-être on rebondit aussi sur Kennedy de nouveau, qui lui a aussi parlé qu'on traverse une sorte de crise spirituelle et émotionnelle. Qu'est-ce que ça inspire pour toi, tout ce monde-là, en fait, cet aspect de l'humain, qui est peut-être un peu oublié parce qu'on ne le voit pas dans les news?
Oui, c'est juste. Alors, je vais dire là aussi, je suis complètement d'accord avec Kennedy. Bon, c'est pas le seul à dire ça, mais puisqu'on parle de lui, entièrement d'accord. C'est une crise essentiellement spirituelle, émotionnelle. Je disais à mes patients en 2020 que l'acteur raté là qui joue au président de la République en France a dit 6 fois dans son discours du mois de mars, on est en guerre. D'abord, il n'a pas dit la fin de la phrase, on est en guerre contre vous les peuples, mais surtout, c'est une guerre dans la tête. Je disais à mes patients, la guerre, les blindés, ils sont pas dans la rue, ils sont dans votre tête. Et c'est parce que c'est la peur. Et au fond, lutter contre nos peurs, traverser nos peurs, c'est exactement ça l'objectif d'une psychothérapie, mais aussi d'une spiritualité. Et selon moi, alors là je parle de moi, hein, je parle plus, c'est plus le psychiatre qui parle, c'est moi qui parle. Selon moi, le fait qu'on ait en France séparé l'Église et l'État en 1905 est une catastrophe parce qu'on a remplacé la spiritualité qui était la norme, hein, ou l'Église ou la croyance en Dieu par la croyance dans une religion laïque. Et pour moi, la religion laïque, c'est une catastrophe parce que elle n'a pas de sens. Elle ne donne pas un sens. Peut-être qu'on peut trouver, du sens ailleurs que dans la croyance que quelque chose nous dépasse. La croyance, on peut avoir une croyance dans la nature, dans la lumière, dans la source, mais si je me relie à la nature, à la lumière, à la source, c'est toujours quelque chose de plus grand que moi qui me dépasse. Je vois dans mes patients ceux qui ont une croyance en rien, si tant est que ça existe, en rien c'est déjà une croyance, le rien, mais la vie perd de son sens, et la perte de sens, mais c'est quelque chose qui nous met au tapis, c'est quelque chose qui nous rend dépressifs. Alors il y a la dépression maladie, mais il y a la dépressivité, il y a vraiment l'habitude de vivre de manière dépressive, la perte de sens, elle est catastrophique. Pour moi, on peut pas vivre si la vie n'a pas de sens. Mmh. Et je pense que c'est pour ça que j'en fais une crise spirituelle, c'est que au fond tout ça devient un non-sens total. Les gens qui doivent nous protéger ne nous protègent pas. Quand on dit, je prends n'importe quel exemple, on n'arrête pas de nous dire, oui, mais vous allez voir, ça va vous simplifier la vie. Par exemple, pour une nouvelle technologie. Alors oui, ça simplifie la vie, mais ça nous la complique aussi en même temps. Ça nous la complique, et puis ça la rend plus insécure. Par exemple, l'ordinateur. Alors maintenant, il faut crypter tous les messages, c'est fantastique. Mais même si on crypte tout, il y a pas de sécurité avec un ordinateur. Il y a pas de sécurité avec un cloud. Hein? Les données, elles sont contenues dans un cloud. Le cloud, il est hackable. Tout est hackable tout le temps. Donc, on est là, on renforce la sécurité, on renforce, mais pour rien. Voilà. Alors, ça maintient les gens dans la peur et dans l'insuffisance. C'est parce qu'on n'a pas assez fait de choses que ça va pas.
Cette culture de la peur, hein, parce que ça devient une spiritualité de la peur, si on veut.
Oui, c'est ça.
On voyait que les dirigeants européens, avec l'Ukraine, enfin, sauter sur l'occasion de l'Ukraine pour faire peur à leur population et les mettre dans un mode de guerre. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des analyses là-dessus qu'on rentrerait dans une rhétorique de guerre permanente, de préparation à la guerre des peuples européens. Et là, on a l'impression qu'avec l'arrivée de Trump au pouvoir, le flanc retombe totalement. Et ils sont complètement pris au dépourvu parce que, comme lui veut la paix, enfin, apparemment, il y a une paix qui se dessine dans les prochains mois. Donc, toute cette rhétorique de la peur, elle va être détruite, si on veut. Comment tu vois ces choses-là, les processus, les prochains mois et les prochaines années en Europe? Est-ce qu'on aura mis de côté définitivement cette volonté de nous mettre dans la peur permanente, la peur d'un ennemi ou pas?
Là, vraiment, tu me poses une question difficile parce que je pense d'abord que ceux qui ont intérêt à nous maintenir dans la peur vont pas lâcher le morceau comme ça. On voit bien, hein, Trump et Poutine essayent de négocier une paix et pendant ce temps, nos dirigeants européens se réunissent pour parler de guerre. Bon, mmh. Donc, ils vont peut-être pas lâcher le morceau comme ça. Et il faut que les peuples, que chacun, alors les peuples, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est nous, chacun d'entre nous se réveille et fasse ce travail qui est vraiment un travail de psychothérapie, mais individuel, pour sortir des peurs. Et là, on va revenir un petit peu au tout début de notre entretien où je disais, bah, finalement, pour éviter le plus possible la sidération, il faut connaître les mécanismes. Il faut qu'on se mette à travailler chacun. C'est-à-dire que on n'a pas à faire peur à l'autre. Faire peur à l'autre, c'est scandaleux. On a à le rassurer. Et je reviens à la spiritualité. Finalement, c'est de considérer l'être humain en face de moi. Au-delà de sa religion, de sa couleur de peau, de son âge, de son sexe, de tout ce qu'on veut, comme mon égal, vraiment, et donc comme un être humain qui nécessite le plus grand respect. Parce que être un être humain, c'est pas de la tarte, hein, c'est pas facile. On a tous choisi de venir s'incarner, ben, chapeau, bravo à nous. Et ça nécessite le plus grand respect, la plus grande admiration pour quelqu'un qui va traverser plusieurs fois l'enfer dans sa vie. Tous, on traverse des choses très difficiles. Pas tous les mêmes, on est d'accord. Mais pour tous, c'est très difficile. Et donc, première étape, purée, bravo, quoi, t'es un être humain, chapeau. Mais il faut l'incarner, il faut le penser vraiment. Et remettre, ben, l'amour, mais l'amour au sens très large du terme, au centre. Hein? Et actuellement, ce qui me choque, c'est que il y a de grands discours très très beaux, mais ils sont incarnés en rien, en rien. Et il faut, nous, qu'on revienne en disant « Ah, là, cette personne, elle incarne pas, je l'écoute pas, je la crois pas. » Venir vraiment dans la réalité. Comment, il y a des gens, on parle beaucoup, est-ce que je dois dissocier l'artiste de son œuvre? Ah. Hein, il y a des tas de gens qui disent des choses merveilleuses, mais alors ils font tout le contraire.
Ouais.
Ben, c'est médiocre. Alors, ça veut pas dire qu'il faut tout jeter de la personne. Elle a dit peut-être des choses, mais il faut garder une certaine distance, parce que en effet, il y a peu de gens qui incarnent vraiment ce qu'ils disent.
Mmh. Amaël a une question et elle demande, est-ce que c'est pas justement plus difficile pour les êtres éveillés?
Qu'est-ce qui serait plus difficile pour les êtres éveillés, pardon?
De ne pas souffrir, voilà.
Ah, ça dépend de ce qu'on pense, c'est-à-dire que je pense que les... Alors, qu'est-ce que c'est éveiller? Alors là, on va rentrer dans un débat, parce qu'il faut définir les termes avant de les utiliser. Qu'est-ce que c'est qu'un être éveillé? J'en sais rien, je pense pas, moi, être un être éveillé, j'ai pas tout compris, j'en sais rien, il y a plein de choses qui m'échappent, etc. Je pense que, en effet, quand on a conscience de la situation, on en souffre, mais quand on dépasse ça, on arrête de souffrir. C'est-à-dire qu'on peut se dire, mais au fond, tout est juste. Je considère la souffrance comme l'épreuve, et là, je rejoins Frédéric Lemarchand, que vous pourrez écouter, qui est vraiment fantastique. Elle dit, l'épreuve, c'est ce qui me permet de grandir. Donc, quand on considère l'épreuve comme quelque chose qui va, au fond, m'apprendre, qui va m'aider à grandir spirituellement, ben, ça m'aide déjà à la supporter, à la regarder différemment. Après, elle est jamais souhaitable, bien sûr. Il y a des choses qui nous arrivent qui sont absolument tragiques, et au moment où on souffre, ben, on peut pas entendre ce genre de choses. Il faut déjà en être un peu sorti. Hein? Mais c'est vrai que si on revient au sens et qu'on arrive à trouver un sens à toute chose, eh bien, on va mieux, évidemment.
Merci pour ce magnifique message. On approche de l'heure. Encore une question d'Amaël aussi par rapport à la phrase de Klaus Schwab qui nous dit justement « Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux ». Est-ce que c'est une phrase dangereuse? Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, elle est dangereuse. J'ai essayé de lire le livre dans lequel il développe sa pensée, qui s'appelle La quatrième révolution, le grand reset. Livre très difficile à lire, j'ai trouvé, parce que c'est plein de sophismes, c'est-à-dire un mélange de choses vraies, mais qui arrive à une conclusion qui me paraît absolument scandaleusement fausse. Et vous ne posséderez rien, vous serez heureux, c'est effectivement vers ça que nous tendons, qu'il voudrait nous faire tendre. C'est-à-dire, vous prendrez des petites drogues, vous regarderez des jeux vidéo, des machins à la télé toute la journée, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, et puis vous serez locataire de tout parce que ça sert à rien que vous possédiez, vous consommez trop, vous vivez trop, de toute façon vous polluez, vous vous déplacez trop, mais étant donné que vous serez drogué de quelque chose, vous inquiétez pas, vous serez heureux. c'est le monde dystopique dans lequel il souhaite nous entraîner et qui est évidemment absolument pas celui auquel j'aspire et je pense que vous non plus. Et c'est nous amener vers quelque chose qui nous déshumanise. J'insiste, et c'est pour ça aussi la thématique des abus. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pas un bouquin sur les abus, c'est pas un bouquin technique sur les abus que j'ai écrit, mais ce qui m'intéressait, c'était au fond, quelle est la responsabilité de la victime? Parce que pour jouer, il faut être deux. Et donc, il y a dans l'abus, il y a l'abuseur et il y a l'abusé. Et au fond, l'abusé a une part de responsabilité. Alors, je vais dire, c'est pas une responsabilité active. C'est pas lui qui fait, c'est pas lui qui va chercher, mais c'est lui qui se laisse faire. On pourrait dire que c'est une sorte de responsabilité passive, si je peux me permettre cette espèce de néologisme. Mais c'est, voilà, il se laisse faire. Et au fond, en doutant de lui ou en transférant son pouvoir à autrui, ah oui, mais machin est expert, il sait mieux que moi. Ah oui, mais machin, c'est le docteur. Le docteur, il sait. Toi, t'es pas docteur, tu sais pas. Ok. Ou alors en étant, ah oui, mais c'est une figure d'autorité, c'est mon prof, c'est mon, peu importe quoi. Eh ben, on s'enlève sa propre responsabilité et on s'enlève son ressenti. Je ressens ça, oui, mais j'ai tort parce qu'un tel sait mieux que moi. Non, moi je sais aussi. Ça ne veut pas dire que je sais tout, je peux demander conseil, mais d'abord je dois faire passer ça au filtre de ma conscience, de mes ressentis. Et ça, c'est terrible. On nous apprend beaucoup, et surtout quand on fait des études supérieures, ce qui est mon cas, mais à transférer notre responsabilité, c'est pas tout à fait ça, mais je dirais notre pouvoir, notre raisonnement à qui c'est mieux. Donc, ce qu'on apprend à l'université, c'est à savoir qui c'est et qui il faut écouter. Voilà. Hein, et ouais. Donc, à recracher. Là, c'est ennuyeux.
Alors que le mieux, c'est de s'écouter aussi soi-même.
On oublie. Oui, et puis d'aller chercher surtout les informations, de travailler. On est tous capables de travailler soi-même, de lire, d'écouter. Grâce à vos émissions, par exemple, où il y a des tas de gens qui font des tas de choses pour essayer d'aider les autres à ouvrir leur esprit.
Ouais, c'est vrai que c'est très encourageant. Et avec la radio, on rencontre plein de bonnes personnes avec beaucoup de volonté dans l'humour, dans la réinformation, dans l'engagement médical, citoyen. C'est magnifique. En fait, je pense qu'on a, en faisant ce qu'ils ont fait, ils ont réveillé toute une tribu de gens qui sont connectés maintenant beaucoup plus qu'ils ne l'étaient avant ces crises-là. Donc ça, c'est au moins quelque chose de très positif. D'ailleurs, la preuve, on a eu l'occasion d'avoir cette soirée. Je pense est-ce qu'on ose terminer là ou est-ce que tu veux encore dire quelque chose ?
Oui, par rapport à ce que tu dis, les gens connectés, ça nous a réveillés. Alors, ce que je peux dire, c'est que moi, ça m'a réveillée, par exemple. Hein, les abus, et notamment les abus qu'on a fait subir aux enfants, j'en ai pas parlé, mais moi c'est ça qui m'a révoltée complètement et qui fait que j'ai accepté de sortir de mon silence. C'était les abus faits aux enfants avec ces histoires de masques et de distance et de vous rester à un mètre dans la cour, enfin du délire total. Ça c'était insupportable et c'est ce qui fait que j'ai accepté de sortir de ma réserve. Et en effet, ça nous a connectés au-delà des clivages politiques. On vient pas des mêmes horizons politiques. Et pourtant, on se retrouve là-dessus et on se retrouve aussi sur une spiritualité plus vivante et dégagée des religions. Parce que je parle de spiritualité, pas de religion, vous l'aurez remarqué. Et pour moi, tout ça, c'est très important. Et au-delà même de la spiritualité, c'est d'élever notre niveau de conscience. Nous sommes des êtres conscients. Et la conscience, elle n'est pas localisée dans notre corps, elle est un peu partout. Ça, c'est Philippe Guimond, notamment, qui en parle très très bien. Allez, il faut s'emparer de toutes ces notions, il faut les rendre vivantes, il faut se connecter, il faut reprendre notre pouvoir d'être humain qui est un pouvoir immense en fait. Voilà, nous sommes des êtres humains, chapeau quoi. Voilà, magnifique. C'est ça que je voudrais dire.
Ouais, magnifique conclusion et puis une conclusion qui ouvre beaucoup de possibles et de perspectives. Donc on va rappeler le nom de ton livre que j'avais sous les yeux, L'amour discontinu, Elisabeth Luckel, hein, qu'on retrouve, est-ce qu'on a un site? Je pense qu'on le cherche sur internet et puis on le trouve.
Alors, je suis pas sûre. Il est sur Amazon, il est disponible sur Amazon. Et puis sinon, on peut me contacter directement. Sur Amazon, il est disponible. Voilà.
Oui. En tout cas, nous, on te souhaite tout de bon pour tous tes projets, que tu sois satisfaite dans tes engagements et puis épanouie comme tu as l'air de l'être. Et puis, ben, on continue à rester en contact. Et puis, on va se retrouver certainement pour d'autres conférences, actions et belles choses d'être humain spirituel. Voilà. Un grand merci d'avoir accepté, en tout cas, d'être là ce soir. Et j'espère que tu as aussi eu du plaisir. Et merci aux auditeurs qui nous ont écoutés, à Pascal et à Maël aussi, qui a beaucoup souffert avec la technique ce soir. Mais pour la prochaine fois, on va régler ça. Voilà.
Merci beaucoup.